participer de ce qu'il regardait comme une belle action des plutôt jeunes hommes. Puis elle l'emmena dans sa chambre et ils firent des projets. Frédéric devait songer maintenant à se pousser. Elle lui donna même sur sa candidature d'admirables conseils. Le premier point était de savoir deux ou trois phrases d'économie politique. Il fallait prendre une spécialité, comme les haras par exemple, écrire plusieurs mémoires sur une question d'intérêt local, avoir toujours à sa disposition des bureaux de poste ou de tabac, rendre une foule de petits services. M. Dambreux s'était montré là-dessus un vrai modèle. Ainsi, une fois à la campagne, il avait fait arrêter son char à banc, plein d'amis, devant l'échoppe d'un savetier, avait pris pour ses hôtes 12 paires de chaussures et pour lui des bottes épouvantables qu'il eut même l'héroïsme de porter durant 15 jours. Cette anecdote les rendit gais. Elle en conta d'autres et avec un revif de grâce, de jeunesse et d'esprit. Elle approuva son idée d'un voyage immédiat à Nogent. Leurs adieux furent tendres, puis, sur le seuil, elle murmura encore une fois « Tu m'aimes, n'est-ce pas ?»« Éternellement, » répondit-il. Un commissionnaire l'attendait chez lui avec un mot au crayon, le prévenant que Rosanette allait accoucher. Il avait eu tant d'occupations depuis quelques jours qu'il n'y pensait plus. Elle s'était mise dans un établissement spécial à Chaillot. Frédéric prit un fiacre et partit. Au coin de la rue de Marbeuf, il lut sur une planche en grosses lettres « Maison de santé et d'accouchement tenue par Madame Alessandri, sage-femme de première classe, ex-élève de la maternité, auteur de divers ouvrages, etc. » Puis, au milieu de la rue, sur la porte, une petite porte bâtarde, l'enseigne répétait, sans le mot accouchement, « Maison de santé de Madame Alessandri », avec tous ses titres. Frédéric donna un coup de marteau. Une femme de chambre à tournure de soubrette l'introduisit dans le salon, ornée d'une table en acajou, de fauteuils en velours grenat et d'une pendule sous globe. Presque aussitôt, Madame parut. C'était une grande brune de 40 ans, la taille mince, de beaux yeux, l'usage du monde. Elle apprit à Frédéric l'heureuse délivrance de la mère et le fit monter dans sa chambre. Rosanette se mit à sourire ineffablement. Et comme submergée sous les flots d'amour qui l'étouffaient, elle dit d'une voix basse « Un garçon, là, là », en désignant près de son lit une barcelonnette. Il écarta les rideaux et aperçut au milieu des linges quelque chose d'un rouge jaunâtre, extrêmement ridé, qui sentait mauvais et vagissait. « Embrasse-le !» Il répondit, pour cacher sa répugnance. « Mais j'ai peur de lui faire mal. Mais non, non !» Alors il baisa, du bout des lèvres, son enfant. « Comme il te ressemble !» Et de ses deux bras faibles, elle se suspendit à son cou, avec une effusion de sentiments qu'il n'avait jamais vus. Le souvenir de Madame Dambreuse lui revint. Il se reprocha comme une monstruosité de trahir ce pauvre être, qui aimait et souffrait dans toute la franchise de sa nature. Pendant plusieurs jours, il lui tint compagnie jusqu'au soir. Elle se trouvait heureuse dans cette maison discrète. Les volets de la façade restaient même constamment fermés. Sa chambre tendue en perce-clair donnait sur un grand jardin. Madame Alessandri, dont le seul défaut était de citer comme intime les médecins illustres, l'entourait d'attention. Ses compagnes, presque toutes des demoiselles de la province, s'ennuyaient beaucoup, n'ayant personne qui vint les voir. Rosanette s'aperçut qu'on l'enviait et le dit à Frédéric avec fierté. Il fallait parler bas, cependant. Les cloisons étaient minces et tout le monde se tenait aux écoutes malgré le bruit continuel des pianos. Il allait enfin partir pour Nogent quand il reçut une lettre de Delaurier. Deux candidats nouveaux se présentaient, l'un conservateur, l'autre rouge. Un troisième, quel qu'il fût, n'avait pas de chance. C'était la faute de Frédéric. Il avait laissé passer le bon moment. Il aurait dû venir plus tôt, se remuer. « On ne t'a même pas vu aux comices agricoles ?» L'avocat le blâmait de n'avoir aucune attache dans les journaux. « Ah, si tu avais suivi autrefois mes conseils, si nous avions une feuille publique à nous !» Il insistait là-dessus. Du reste, beaucoup de personnes qui auraient voté en sa faveur, par considération pour M. Dambreuse, l'abandonneraient maintenant. Delaurier était de ceux-là. N'ayant plus rien à attendre du capitaliste, il lâchait son protégé. Frédéric porta sa lettre à Madame Dambreuse. « Tu n'as donc pas été à Nogent ? » dit-elle. « Pourquoi ? » ?»« C'est que j'ai vu Delaurier il y a 3 jours. » Sachant la mort de son mari, l'avocat était venu rapporter des notes sur les houilles et lui offrir ses services comme homme d'affaires. Cela parut étrange à Frédéric, Et que faisait son ami là-bas? Madame d'Ambreuse voulut savoir l'ample de son temps depuis leur séparation. J'étais malade, répondit-il. Tu aurais dû me prévenir au moins. Oh, cela n'en valait pas la peine. D'ailleurs, il avait eu une foule de dérangements, des rendez-vous, des visites. Il mena dès lors une existence double, couchant religieusement chez la maréchale et passant l'après-midi chez Madame d'Ambreuse, si bien qu'il lui restait à peine, au milieu de la journée, une heure de liberté. L'enfant était à la campagne, à Andilly. On allait le voir toutes les semaines. La maison de la nourrice se trouvait sur la hauteur du village, au fond d'une petite cour, sombre comme un puits. Avec de la paille par terre, des poules çà et là, une charrette à légumes sous le hangar. Rosanette commençait par baiser frénétiquement son poupon, et prise d'une sorte de délire, allait et venait, essayait de traire la chèvre, mangeait du gros pain, aspirait l'odeur du fumier, voulait en mettre un peu dans son mouchoir. Puis il faisait de grandes promenades. Elle entrait chez les pépiniéristes, arrachait les branches de lilas qui pendaient en dehors des murs, criait « Hue, bourriquet !» aux ânes traînant une carriole, s'arrêtait à contempler, par la grille de l'intérieur, des beaux jardins. Ou bien la nourrice prenait l'enfant, on le posait à l'ombre sous un noyer, et les deux femmes débitaient pendant des heures d'assommantes niaiseries. Frédéric, près d'elle, contemplait les carrés de vigne sur les pentes du terrain, avec la touffe d'un arbre de place en place, les sentiers poudreux pareils à des rubans grisâtres, les maisons étalant dans la verdure des taches blanches des rouges, et quelquefois, la fumée d'une locomotive allongeait horizontalement au pied des collines couvertes de feuillage, comme une gigantesque plume d'autruche dont le bout léger s'envolait. Puis, ses yeux retombaient sur son fils. Il le figurait jeune homme, il en ferait son compagnon. Mais ce serait peut-être un sot, un malheureux à coup sûr. L'illégalité de sa naissance l'opprimerait toujours. Mieux aurait valu pour lui ne pas naître, et Frédéric murmurait « Pauvre enfant !» Le cœur gonflé d'une incompréhensible tristesse. Souvent, il manquait le dernier départ. Alors, Madame d'Ambreuse le grondait de son inexactitude. Il lui faisait une histoire. Il fallait en inventer aussi pour Rosanette. Elle ne comprenait pas à quoi il employait toutes ses soirées. Et quand on envoyait chez lui, il n'y était jamais. Un jour, comme il s'y trouvait, elles apparurent presque à la fois. Il fit sortir la maréchale et cacha Madame d'Ambreuse en disant que sa mère allait arriver. Bientôt ses mensonges le divertirent. Il répétait à l'une le serment qu'il venait de faire à l'autre, leur envoyait deux bouquets semblables, leur écrivait en même temps, puis établissait entre elles des comparaisons. Il y en avait une troisième toujours présente à sa pensée. L'impossibilité de la